Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 2 juillet 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. Iran-Israël, Bennett changera de cap. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, par un décret du guide suprême, l'honorable Ayatollah Khamenei, Gholam Hossein Mohseni, EGI, devient le nouveau chef du pouvoir judiciaire iranien. L'assassinat du général Soleimani est un terrorisme d'État, insiste l'ambassadeur d'Iran au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et puis, les États-Unis restituent la base aérienne de Bagram à l'armée afghane, selon le Pentagone. C'était les principaux titres que nous allons aussi développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Par un décret du guide suprême, Gholam Hossein Mohseni, EGI, devient le chef du pouvoir judiciaire. Le leader de la révolution islamique a nommé Gholam Hossein Mohseni, EGI, à la tête du pouvoir judiciaire dans un décret émis ce jeudi. Selon l'IRNA, depuis le site d'information du bureau du guide suprême, dans son décret émis le jeudi le 1er juillet, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei a insisté sur le fait d'accorder une attention sérieuse aux missions confiées au pouvoir judiciaire par la Constitution, de poursuivre l'approche transformationnelle au sein du pouvoir judiciaire, de mettre en œuvre l'actuel document d'évolution de cet appareil judiciaire, d'élargir et de renforcer de nouvelles technologies dans le système judiciaire, d'engager des forces compétentes, efficaces et dévouées dans les responsabilités, de rendre hommage aux services rendus par les juges honnêtes qui savent traiter avec détermination les vices et les violations, de garder le contact direct avec le peuple. Mohseni EGI a remplacé Seyed Ebrahim Raisi, le nouveau président iranien, fraîchement élu. Lors de l'inauguration de nouveaux projets nationaux, le président Rouhani a déclaré que l'Iran a connu une croissance économique positive de 3,6% l'an dernier. L'année dernière, nous avons eu une croissance industrielle de plus de 7%, alors que de nombreux pays ont eu une croissance économique négative l'année dernière et la croissance économique mondiale était une croissance négative de 3%. Mais l'Iran a enregistré l'année dernière une croissance économique positive de 3,6%, a déclaré jeudi le président Hassan Rouhani. Hassan Rouhani s'exprimant le jeudi après-midi lors de la cérémonie d'inauguration des projets nationaux, s'attarde sur les conditions difficiles et pénibles vécues par le peuple iranien avant d'ajouter, je cite, nous avons pourtant enregistré une croissance industrielle de plus de 9% au quatrième trimestre de l'année. Nous avons également connu une croissance industrielle de plus de 7%, ce qui a stimulé notre croissance économique l'année dernière. L'ambassadeur et le représentant de l'Iran au siège européen de l'ONU à Genève a déclaré que l'assassinat du lieutenant général iranien Rossem Soleimani était un terrorisme d'État. Ismail Barahi Hamaneh, qui s'exprimait à l'occasion de la 47e réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a déclaré que l'assassinat du très haut général iranien Rossem Soleimani, qui était un véritable défenseur des droits humains et opposant à l'occupation et au terrorisme de Daesh, était un acte barbare, arbitraire, injuste et illégal. Il a ajouté que cet acte était un crime international qui représente une menace pour la paix et la sécurité mondiale. Le diplomate a noté que le peuple iranien ne renoncerait jamais à demander justice pour ce crime odieux. Le très haut général martyr iranien Rossem Soleimani, commandant de la force route du CGRI, et le commandant irakien Abu Mahdi al-Mohandis ont été assassinés par les forces américaines près de Bagdad en janvier 2020. L'ancienne rapporteuse spéciale des Nations Unies, Agnès Callamard, a qualifié l'action américaine d'arbitraire et de contraire aux règles internationales et à la Charte des Nations Unies. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a réagi à la dernière attaque israélienne contre Gaza, affirmant l'agression d'Israël n'affecterait pas la détermination de la nation palestinienne à lutter pour ses droits. Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a qualifié l'attaque israélienne de manœuvre qui vise à dissimuler les défis croissants auxquels est confronté le régime de Tel Aviv. Selon Fawzi Barhoum, l'attaque du régime occupant est un spectacle pour apaiser ses colons sionistes. Barhoum a souligné que les groupes de résistance ne cesseraient à lutter contre les politiques hostiles de Tel Aviv et seront contraints ce dernier à respecter les droits des Palestiniens. Jeudi soir, des frappes aériennes israéliennes ont touché des zones au sud de la ville de Gaza. Tel Aviv a prétendu que les frappes étaient une réponse à l'envoi de ballons incendiaires par des Palestiniens vers Israël. En mai, le régime a lancé une agression de 11 jours contre Gaza, tuant près de 260 Palestiniens avant de supplier un cessez-le-feu. Les Palestiniens ont exprimé leur forte désapprobation de l'opposition du président allemand à l'enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre israéliens. Le Hamas a dénoncé jeudi les propos du président allemand Frank-Walter Steinmeier concernant l'autorité de la Cour pénale internationale, CPI, à enquêter sur les crimes de guerre israéliens en Palestine. Les remarques du président allemand sur le manque de compétences de la CPI pour tenir l'occupation responsable de ces crimes sont une violation du droit international et un parti pris clair envers l'occupation et sa politique agressive contre le peuple palestinien, a déclaré le porte-parole du Hamas, Hazem Kassem. La position du président allemand encourage l'occupation à poursuivre ses crimes et son agression et place l'entité d'occupation au-dessus du droit international, a-t-il déclaré. Steinmeier a déclaré mercredi au quotidien israélien Haaretz que son pays considère que la CPI n'a pas compétence pour enquêter sur les crimes de guerre israéliens dans les territoires palestiniens en raison de l'absence de l'État palestinien et considère cela comme une violation du droit international. Le Hamas a demandé à Steinmeier d'arrêter sa discrimination en accordant à Israël l'immunité de responsabilité et de punition, ainsi qu'en le considérant comme un État au-dessus des lois. Plus tôt jeudi, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné les déclarations de Steinmeier comme un retrait des règles de droit international et une ingérence dans le travail et les décisions de la CPI. La CPI a ouvert une enquête formelle en mars sur des crimes de guerre présumés dans les territoires palestiniens après 5 ans d'enquête préliminaire. Le porte-parole du mouvement de la résistance irakien Al-Nujaba a déclaré à Press TV que les forces de la résistance irakienne étaient capables de riposter à la récente attaque américaine contre les unités de mobilisation populaire du pays. M. Chamari a déclaré que la récente attaque américaine était un acte terroriste. Le porte-parole a exhorté les États-Unis à retirer leurs troupes d'Irak. Il a noté que la présence des forces américaines dans son pays était illégale. L'année dernière, les législateurs irakiens ont adopté à l'unanimité un projet de loi rendant obligatoire l'expulsion de toutes les troupes étrangères du pays. Le porte-parole du mouvement de la résistance irakien a également appelé le gouvernement irakien à adopter une position plus ferme contre les attaques américaines visant les forces de la mobilisation populaire irakienne, Hashd al-Shaabi. Les États-Unis ont ciblé lundi des positions des forces de la résistance irakienne situées le long de la frontière irako-syrienne. Les Hashd al-Shaabi affirment que 4 de leurs membres ont été tués dans les frappes aériennes américaines. L'actualité régionale, c'est également le Yémen. L'armée yéménite a publié des images d'une attaque menée la semaine dernière contre une cible militaire dans la province de Najran, en Arabie saoudite. Le porte-parole de l'armée, Yahya Sari, a déclaré que l'opération avait été menée à l'aide de 10 drones KSF-2K. Le 24 juin, les forces armées yéménites ont pris pour cible un camp d'entraînement militaire dans la ville saoudienne d'Al-Wadia. L'attaque a fait des dizaines de morts parmi les forces saoudiennes. Une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite a lancé une guerre contre le Yémen en 2015 dans le but d'y rétablir un régime fantoche. Le Yémen a promis des attaques de représailles jusqu'à ce que Riyad mette fin à son agression et à son blocus d'envergure qui a fait des dizaines de milliers de morts parmi lesquels un grand nombre de civils. Enfin, un responsable américain de la défense a déclaré que toutes les troupes américaines et de l'OTAN avaient quitté la base aérienne afghane de Bagram, située au nord de la capitale Kaboul. Le responsable, qui parlait sous couvert de l'anonymat, n'a pas précisé quand les troupes ont quitté la base. Il n'a pas non plus indiqué quand la base serait officiellement remise aux forces afghanes. Quelque 96% soldats étrangers devraient quitter l'Afghanistan avant la date limite du 11 septembre, qui a été fixée par le président Joe Biden. Ce dernier cherche à mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis. L'Allemagne et l'Italie, membres de l'OTAN, ont déjà achevé le retrait de leurs troupes d'Afghanistan. Les États-Unis et leurs alliés ont envahi le pays en 2001 au nom de la lutte contre le terrorisme. Aucune paix n'a pourtant été jusqu'à présent obtenue. Une intervention militaire qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes, dont un grand nombre de civils en Afghanistan. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Iran, Israël, Bennett changera de cap. Benjamin Netanyahou est parti après 12 ans, mais l'Iran reste un problème plus grand que jamais pour Israël, écrit le site web israélien Esman. L'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement rend possible la révision des politiques extérieures d'Israël, surtout les politiques dogmes qu'il a adoptées pendant les dernières années face à l'Iran, indique Zman. Et de continuer, il existe apparemment un consensus à l'intérieur d'Israël contre le programme nucléaire iranien. Reste à savoir, toutefois, si les politiques adoptées sous Netanyahou vis-à-vis de l'Iran servaient les intérêts stratégiques d'Israël. En tant que Premier ministre, Benjamin Netanyahou a mis en œuvre une série de politiques agressives envers l'Iran, dont l'objectif de le dissuader de continuer ses activités nucléaires. Israël était à l'origine de la politique de pression maximale qui a soumis l'Iran à de sévères sanctions économiques, tout en s'opposant à tout dialogue avec Téhéran. En outre, Israël a mené des opérations secrètes contre les scientifiques et les installations nucléaires de l'Iran. Malgré tout ça, Israël n'a pas réussi à faire freiner les projets nucléaires iraniens et à empêcher que le droit de l'Iran de continuer ses activités nucléaires soit reconnu à l'échelle internationale. L'auteur de l'article reconnaît ensuite le succès de l'Iran qui est arrivé à lever tous les obstacles. Les savants iraniens ont réussi à mettre sur pied une installation d'enrichissement diversifié répartie dans deux sites bien protégés. En plus, la technologie à laquelle ont accédé les Iraniens empêche l'anéantissement décisif du programme nucléaire de l'Iran. Celui-ci pourrait au maximum être ralenti ou gelé temporairement. Le progrès du programme nucléaire iranien depuis le gel de l'accord nucléaire prouve que ce programme ne pourra être restreint que par la voie d'un accord, d'autant plus qu'Israël a une mince chance de pouvoir contrecarrer la menace iranienne sans aide et assistance des États-Unis, indique toujours l'article publié par le site web Zman. Sur le plan régional, Israël n'a jamais pu expulser les forces du Hezbollah et de l'Iran du territoire syrien, malgré sa politique très offensive, ajoute toujours la source. L'auteur de l'article propose ensuite trois options qui pourraient remplacer la politique actuelle d'Israël face à l'Iran. Premièrement, Israël devra soutenir les efforts des États-Unis destinés à revivifier l'accord nucléaire, car c'est la seule voie pouvant imposer un retour à l'arrière au programme nucléaire iranien. Deuxièmement, les Iraniens seront à l'aise en Syrie tant que Bachar Assad sera au pouvoir. Israël devra donc préparer un programme politique en coopération de la Russie et de la Turquie, avec pour objectif d'évincer Bachar Assad du pouvoir, ce qui aboutirait à la fin de la présence iranienne en Syrie. La prochaine guerre fera disparaître Israël. Yahya Sinwar, chef du mouvement de la résistance islamique Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré que s'il y avait une autre guerre avec le régime sioniste, le visage de la région de l'Asie de l'Ouest changerait. Les résultats de la campagne qu'a menée Israël pendant toutes ces années contre la République islamique d'Iran restent mitigés car Tel Aviv avait oublié que ses agissements devraient servir un objectif. Il a conclu que le changement de cabinet en Israël pourrait fournir une occasion en or pour lancer un examen approfondi à propos des politiques de Tel Aviv vis-à-vis de l'Iran.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Les États-Unis ont frappé il y a quelques jours les positions de la résistance irakienne en territoire des Syriens et également à l'intérieur du territoire irakien. En fait, l'aviation américaine a bombardé les positions militaires de la résistance irakienne, des éléments de la résistance irakienne, dont la mission consistait à combattre le groupe terroriste Daesh, dont la mission consistait à empêcher l'infiltration des terroristes du territoire syrien vers le territoire irakien. La réaction du côté de la résistance est ferme. Un important dirigeant des Hashd al-Shaabi, des unités de la mobilisation populaire, cette importante composante de la résistance irakienne qui fait partie également, rappelons-le, de l'armée irakienne, de Qais Khazali, a affirmé dans un discours télévisé, nous ne sommes pas des amateurs de sang, ni des seigneurs de guerre. Les opérations de la résistance veillent à ne pas verser de sang. Notre tactique consistait à épuiser les capacités militaires de l'ennemi pour le forcer à se retirer. Mais l'ennemi américain a prouvé qu'il sous-estime le sang de notre peuple, a-t-il expliqué également. Et d'ajouter, c'est l'ennemi américain qui a commencé à tuer et de déplacer la bataille à ce niveau. Et dans ce contexte, la résistance irakienne dit que voilà, le combat contre l'occupation américaine est entré dans une nouvelle phase. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux spécialistes des questions internationales. J'ai avec moi pour cette émission Maître Arnaud Devollet, juriste français, spécialiste des questions internationales depuis Damas. Maître Devollet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Devollet, qui est en ligne avec nous depuis Toulouse, c'est Monsieur Pierre Dortillier, philosophe français spécialiste des questions internationales. Monsieur Dortillier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Nerostin, bonjour à tous les auditeurs et à Maître Devollet.
Monsieur Dortillier, on va commencer avec vous notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet, votre analyse s'il vous plaît.
Eh bien, vous avez dans votre exposition, M. Nerostin, justement souligné que cette fraction de la résistance irakienne appartient à l'armée irakienne, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un groupe privé, enfin, c'est un groupe patriote, mais en même temps, disons, un groupe qui appartient à la défense générale du pays contre toute agression. Que ces agressions soient celles des anciens ou des perpétuels occupants de l'Irak, ou qu'elles soient aussi celles de ces groupes de Daesh qui se sont infiltrés, vous savez, depuis longtemps en Irak, et disons, mènent en Syrie comme en Irak, évidemment, un combat qu'elles ne peuvent mener, ces bandes-là, que parce qu'elles sont soutenues matériellement, financièrement, humainement, si je puis dire, par recrutement, par des puissances, par des forces qui sont en Occident. Ce ne sont pas des forces internes, ce sont des forces qui les animent, ce sont des forces extérieures. Je rappelle, vous savez, un jeune auditeur, ce que disait M. Fabius autrefois à propos du groupe Al-Nosra, dans un discours de Marrakech, que ce groupe qui était terroriste faisait du bon travail. Il avait dit même un argot français, du bon boulot. Voilà exactement, disons, comment il faut situer les choses. Alors, la signification de cette opération américaine, bien sûr, est de maintenir, disons, des braises, si je puis dire, un feu d'hostilité contre, bien sûr, le gouvernement syrien, bien sûr, en premier, contre le gouvernement irakien et naturellement contre l'Iran. Je crois que c'est ainsi que ça a été présenté, en tout cas, par les médias occidentaux, vous voyez. Et je crains malheureusement que cette attaque par des drones, tout cela, de patriotes irakiens, ne soit, disons, une sorte de, je répète, de feu couvé, vous voyez, pour pouvoir justement préparer l'opinion à une possible intervention plus importante, disons, des États-Unis, dans cette région, c'est-à-dire qu'ils contredisent entièrement ce qui avait été annoncé à l'époque de Trump, vous voyez, à savoir d'un dégagement progressif, vous voyez, des troupes en Irak, etc. Alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'on prépare l'opinion publique, bien sûr, américaine, à des interventions, à présence indéfinie en Irak, et aussi, bien sûr, on augmente par la même, en même temps, disons, l'hostilité contre l'Iran. Évidemment, le fond de l'affaire est que le gouvernement légitime, bien sûr, je parle maintenant de la Syrie, est toujours montré du doigt. On ne tient aucun compte, disons, je dirais, de la double légitimité du gouvernement irakien et de son autorité, et du gouvernement syrien de son autorité. Ça ne s'est jamais vu, enfin, disons, c'est vraiment difficile de concevoir, disons, que l'on puisse ainsi agir pour défendre des groupes qui sont des groupes terroristes, les défendre contre des autorités légales, voyez-vous, locales. Ça va à l'encontre même, je dirais, du principe de civilisation.
Maître Devollet, en fait, suite à cette frappe américaine contre les positions militaires de la résistance irakienne, une base abritant les forces militaires américaines, les forces d'occupation américaines en territoire irakien a été visée par des missiles. A en jugé par des informations, cette frappe au missile a infligé d'importants dégâts et également des pertes en vie humaine, surtout des blessés côté américain. Pensez-vous que tout cela indique que la résistance irakienne, la résistance, si vous voulez, dans son propre sens, que ce soit en Irak ou en Syrie, est bien résolue, bien déterminée, si vous voulez, à se venger, à riposter, si vous voulez, aux frappes américaines, du tac au tac, maître de volée?
Oui, absolument. C'est d'ailleurs plus flagrant que très récemment à Washington, s'est tenue une rencontre au sommet entre les hauts militaires du Pentagone concernant justement les capacités balistiques et drones de la résistance. Donc, il ne faut pas s'y tromper. La résistance de facto, et c'est cela en dépit de la narrative qui nous est imposée depuis plusieurs années, à savoir que les Américains sont dans la région pour combattre Daesh. Là, les Américains maintenant ne font plus, si je puis dire, illusion. Ils déclarent plus ou moins de manière implicite que la résistance au sens large, que ce soit la résistance irakienne ou la résistance syrienne, sont devenus de facto leurs objectifs militaires. Et en cela, cette opération, cette attaque-là, qui, rappelons-le pour les spectateurs, s'est tenue dans la région autrement cruciale de Abu Kamal et Mayadin, qui représentent un point de passage entre l'Irak et la Syrie. Point de passage qui leur permet de contrôler justement les frontières et d'éviter la porosité qui a permis aux groupes terroristes pendant des années d'aller et venir entre les deux pays, et a été la cible. Et donc, il ne faut pas se tromper, cette attaque avait deux objectifs. Le premier, c'était effectivement de s'attaquer au contrôle de la résistance de la frontière des zones frontalières entre les deux pays, sur le plan tactique. Et sur le plan stratégique, de forcer la résistance à agir, bien sûr, à se défendre, et ce faisant, effectivement, à paver la route pour convaincre une opinion publique américaine, il faut le dire, assez ignorante des affaires régionales, que, en fait, les États-Unis, on ne faisait que, ce sont les mots qu'ils ont utilisés, se défendre. Tout ça participe, si je puis dire, d'un retour aux affaires des néoconservateurs. On a pu voir, dans le cadre des négociations sur le retour des États-Unis dans l'accord sur le nucléaire, que les Israéliens tiennent la main, qu'ils tiennent le manche dans ce contexte précis, et que en toile de fond, si je puis dire, l'objectif américain est d'empêcher justement toutes les forces de la résistance qui représentent vraiment le désir de souveraineté et d'indépendance politique dans la région, contrôler et prendre en main, si je puis dire, la destinée des pays respectifs de la région. Et donc, cela passe par l'expulsion des forces américaines.
Monsieur Tortillet, lorsque vous étiez en train en fait de nous faire votre analyse sur ce qui se passe actuellement en Irak et en Syrie avec cette poursuite d'agression américaine et cette riposte du côté de la résistance, et lorsque monsieur Develay également était en train de nous faire, si vous voulez, nous livrer son analyse. Et nos amis à la régie ont diffusé surtout des images de cette importante parade militaire de la résistance irakienne qui a eu lieu à Bagdad, de capitale, défilé militaire auquel a participé également le Premier ministre irakien Mustafa Kazemi. Monsieur Develay vient de le dire, voilà, il y a eu tout récemment cette réunion au sommet aux États-Unis pour examiner les capacités de drones de la résistance irakienne, mais ces capacités ne se limitent pas, si vous voulez, aux drones. Et les images, si vous voulez, diffusées de cette importante parade militaire de la résistance irakienne parlent d'elle-même. Monsieur Dortiguet, la résistance a, si vous voulez, militairement, de quoi à sa disposition pour se défendre et pour, en fait, riposter aux menaces américaines, n'est-ce pas?
C'est ce que certainement les Américains ont voulu tester. Si on s'en tient à un plan réaliste, ils ont donc là la réponse à ce qu'ils cherchaient. Mais en même temps, comme Maître Develay l'a dit, il y a là une sorte de mobilisation aux États-Unis des groupes néoconservateurs qui relèvent la tête, ou tout au moins parlent plus fort qu'avant, et veulent déplacer ouvertement l'adversaire. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a fait croire au peuple américain qu'il s'agissait de lutter contre le terrorisme, bien sûr, en Syrie, même si Bachar el-Assad était considéré comme un être qui était pas bon, etc. Enfin, mais on mettait quand même en évidence, disons, le terrorisme, qu'on ne peut pas cacher, le terrorisme de Daesh et autres. Et là, il semble qu'il y ait une sorte de glissement vers une sorte d'hostilité, alors ouvertement déclarée, contre la résistance elle-même. C'est insensible, mais ça ne se fait pas comme ça ouvertement du jour au lendemain, mais il y a une préparation de l'opinion. Et bien naturellement, l'opinion américaine, vous savez, voit les choses à cause de la distance, de façon très confuse, voyez, et on ne lui explique pas le fond des choses. C'est un peu aussi ce qui se passe dans beaucoup de domaines en Europe, mais en France même, voyez. Et je crois que cette manifestation dont vous parlez, que la régie a diffusée, d'unité, disons, nationale de la défense irakienne, est quand même, disons, la véritable riposte, évidemment, à ce qu'on peut appeler, en effet, un test américain. De ce côté-là, s'il y a test, bien sûr, il y a une signification de ce test. Mais quelle est, il faudrait le dire, quelle est finalement l'autre pensée, la pensée suivante américaine, quelle est cette stratégie à long terme ou à court terme que la nouvelle administration, par exemple, a pu, en liaison avec celle de M. Bennett, qui a succédé à M. Netanyahou, produire. Il ne faut pas oublier que ces groupes néoconservateurs sont des groupes qui pratiquent la politique gauchiste, d'ailleurs, hein, la politique trotskiste, parce que beaucoup sont de formation trotskiste, de la guerre permanente, de l'attaque permanente, voyez-vous, du harcèlement. Et je crois que nous avons, pour reprendre le sens de du coup monté américain, nous avons affaire justement à une tactique de harcèlement de la résistance et de l'État irakien également, voyez-vous. Et est-ce que cela prépare quelque chose de plus important? Nous le croyons, bien sûr. Il est certain qu'on ne peut s'attendre qu'à une prolongation, un prolongement, disons, et un développement progressif, bien sûr, de cette hostilité américaine qui, je le dis, mettra en évidence, voyez-vous, le danger de l'Iran, le danger de l'axe de la résistance, etc. Et avec une opinion qui est elle-même en Occident endormie, voyez-vous, qui n'est pas du tout au courant de la nature du terrain.
Maître Develay, je viens de le dire tout à l'heure, en fait, au début de notre émission, et ce responsable, c'est important quand même, responsable de la résistance irakienne, dit que la résistance est entrée dans une nouvelle phase de son combat, de sa bataille face à l'occupation américaine. Qu'entend-il, d'après vous, par cette nouvelle phase, si vous voulez, de combat, Maître Develay?
Ben écoutez, je pense qu'il a parfaitement intégré l'évolution, si je puis dire, du narratif, à savoir qu'ils sont maintenant la résistance, eux-mêmes, la cible des néoconservateurs. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Bortiguier lorsqu'il dit que les néoconservateurs sont des anciens trotskistes, enfin, ils ont une formation trotskiste et qui vise fondamentalement à harceler, créer le chaos permanent et créer la guerre permanente. Parce que de toute façon, l'objectif de ces gens-là, c'est, si je puis dire, une situation qui ne permet pas l'émergence politique d'une ligne souveraine dans les pays qui sont visés. Il faut absolument, et en cela, ça rejoint le plan Yinon, hein, de 1982, qui est un plan qui avait été mis en avant par un haut fonctionnaire israélien, de créer une situation de chaos chronique qui permettrait sur la durée l'émergence de micro-organismes qui soient faciles à contrôler de peu qu'on arrive à appuyer tantôt sur des points professionnels et tantôt sur des points ethniques. Donc cela participe parfaitement à cette vue d'ensemble, cette grande vision, entre guillemets, pour la région. Et en cela, l'État profond, l'appareil américain qui est infiltré de A à Z par les néo-conservateurs, même dans le parti politique au pouvoir aux États-Unis, continue cette démarche. Et maintenant, il ne fait aucun doute qu'il va falloir pour eux faire monter la pression. Les conservateurs ne se remettent jamais en question. Quand on leur dit que leur politique a échoué, en fait, si elle a échoué, c'est parce que l'implication des forces n'était pas assez approfondie. Donc, ce qui leur faut maintenant, c'est un casus belli. Et pouvoir pointer du doigt une espèce de golem qui menacerait la sécurité américaine et les troupes américaines, de façon à convaincre l'opinion publique aux États-Unis que les forces armées sont menacées par des groupes, je cite, selon leur sémantique, appuyés, soutenus par l'Iran, de façon petit à petit à amener l'opinion publique à considérer l'Iran comme une menace existentielle pour la sécurité des États-Unis d'Amérique. Ça paraît absolument délirant quand on connaît la région, la réalité sur le terrain, mais cette technique, cette narrative s'applique parfaitement par rapport à l'opinion publique américaine. Et on peut imaginer que l'escalade qui va forcément s'en suivre visera aussi de manière assez pratique à remporter les élections prévues pour le mois d'octobre en Irak, qui aurait vu certainement le parti de la résistance gagner en siège et asseoir encore plus au travers des institutions sa légitimité politique eu égard à la plateforme qui consiste à dire aux Américains de quitter le pays. En remportant ces élections tunisiennes, on peut imaginer que les Américains veulent continuer à s'appuyer sur certains éléments au sein des institutions irakiennes qui, pour l'instant, semblent avoir été pour le moins ambivalents quant à leur positionnement.
Monsieur Tortiguet, il y a eu cette attaque, cette riposte de la de résistance, cette attaque contre cette base américaine en territoire irakien. Pensez-vous que, en fait, la résistance va multiplier, suite surtout à cette réaction du côté de la résistance, va multiplier, si vous voulez, ces attaques contre les forces américaines, que ce soit en Irak ou en Syrie?
Naturellement, on peut supposer que la résistance continuera ses attaques, et naturellement, avec certainement une prudence. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie quand même à adopter vis-à-vis de l'entreprise américaine. Car cette entreprise américaine a intérêt à ce qu'il y ait, non pas bien sûr un front puissant contre elle, mais à ce que, disons, elle s'attend à subir des sortes de guérillas, de ripostes. Et ces ripostes, à notre avis, doivent tenir compte de cette stratégie américaine, de ne pas tomber dans un piège, si vous voulez. Et le meilleur moyen, pour le dire clairement, de ne pas tomber dans le piège, c'est de montrer une solidarité entre tous les milieux de la résistance, et en particulier à l'intérieur de l'Irak, de faire justement, de tenir compte qu'il y a aussi, à Maître Develet vient de dire, mais ceci est connu bien sûr des observateurs, de nombreux observateurs, qu'il y a à l'intérieur de l'Irak des groupes, n'est-ce pas, qui sont influencés par les États-Unis, qui jouent un jeu, disons, qui n'est pas très net, enfin très net pour l'opinion, mais disons qu'on sait très bien qu'ils sont, comment vous dire, qu'ils ont un pied dans les deux camps, et qui sont corruptibles, si vous voulez. Il faut que je le dise ouvertement. Et alors, il faut naturellement que ces éléments-là soient neutralisés, et qu'il y ait surtout la meilleure manière, à notre avis, de réagir, n'est pas de faire un bombardement ici ou là. C'est de montrer qu'il y a une unité ouverte de la résistance dans la région. Voyez, et ceci, que ceci puisse impressionner quand même, disons, l'opinion publique, ou tout au moins empêcher, disons, la propagande conservatrice, néoconservatrice américaine, de parler d'agression
et de ne pas, de la part des Irakiens ou des Iraniens ou des Syriens, et à parler d'agression, oui, mais disons, on ne peut pas dire qu'un peuple uni est un peuple agressif.
Merci.
Et je crois que là, il y a une stratégie habile de la part de la résistance qui, disons, doit s'affirmer, mais sans tomber dans les pièges américains. À notre avis, c'est un jeu, je ne dis pas stupide, mais un jeu difficile, hein, voyez. Et les Américains, tout au moins les néoconservateurs, les équipes israéliennes et autres, veulent, disons, par une sorte, entre guillemets, de guérilla de leur part, disons, pousser, justement, à des actions irréfléchies, et ils n'attendent que le feu vert, disons, pour une intervention beaucoup plus large, beaucoup plus grande, vous voyez.
Merci.
Et je ne dis pas qu'elle est fatale, mais elle est quand même dans les plans de ces gens qui sont, dès le départ, il faut le dire, des fanatiques. Comme les trotskistes, comme l'étaient, voilà.
Merci beaucoup, monsieur Pierre Dortillier, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Merci. Mes vifs remerciements vont également à maître Arnaud de Volée, qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Hossein Khanzadi, a rencontré l'amiral Pierre Vandier, chef d'état-major de la marine française, en marge de la conférence du Symposium des marines de l'océan Indien qui a lieu sur l'île de la Réunion dans le sud de l'océan Indien. Nous ne comprenons pas la raison de la présence des forces militaires extra-régionales dans le golfe Persique et nous exigeons que les navires de combat des États-Unis et des pays de l'Union européenne quittent les zones proches du littoral iranien, a déclaré le contre-amiral Khanzadi lors de sa rencontre avec le chef d'état-major de la marine française. De son côté, l'amiral Pierre Vandier a déclaré « Sous la présidence de Donald Trump aux États-Unis, les forces armées américaines appelaient leurs partenaires à accentuer leur présence dans la région pour augmenter les pressions sur la République islamique d'Iran, mais la marine française a gardé sa distance ». Avec Pierre Dortiguier, politologue français, nous avons analysé l'importance de cette rencontre entre le commandant de la marine iranienne et son homologue français.
Eh bien, il s'agit là vraiment d'une réunion très importante, qui est symptomatique, disons, d'un état d'esprit, non pas symptomatique de leur caractère, du contre-amiral et de l'amiral Pierre Vandier, mais symptomatique, ou je dirais, de la position de certains milieux français et européens qui se montrent réalistes et par la même, disons, veulent s'éloigner de la politique brutale. Il n'y a pas d'autre mot du président Trump qui, si certains idéalisent, mais en réalité, disons, est une politique qui ne correspond pas du tout à la manière d'agir, à la conception du monde que celle de nombreux Européens. En particulier, il ne faut jamais oublier que la politique française est influencée, je ne dis pas officiellement, hein, mais par des nombreux contacts avec la politique allemande, par exemple, et d'autres Européens, et que ceux-ci ont une autre expérience, bien sûr, des relations humaines et internationales que ne peuvent avoir des Américains dont la politique est plutôt orientée vers, vers le coup de bluff, comme au poker, voyez-vous, c'est-à-dire qu'on montre sa force en espérant ne pas trop s'en servir, mais en se promettant de réutiliser à la prochaine occasion, voyez-vous.
vent de tempête atlantique en mer Noire. L'affaire du HMS Defender atteste que le Royaume-Uni et probablement les États-Unis tentent de provoquer militairement la Russie au cours d'exercices impliquant les Alliés. Il n'y a pas de menace russe, mais il est possible de la créer. Ce 28 juin a commencé la Sea Breeze, donc brise de mer, la grande manœuvre aéronavale officiellement co-hébergée en mer Noire par les États-Unis et l'Ukraine. Les États-Unis qui la planifient et la commandent sont ainsi les maîtres de maison dans cette mer adossée au territoire russe. La Sea Breeze, qui se déroule du 28 juin au 10 juillet, est dirigée par les forces navales des États-Unis pour l'Afrique, dont fait partie la 6e flotte avec quartier général à Naples. Elle prévoit des exercices de guerre navale, sous-marine, amphibie, terrestre et aérienne. Depuis qu'en 1997 a commencé cette série de manœuvres annuelles en mer Noire, l'édition 2021 voit le plus grand nombre de participants. 32 pays de 6 continents avec 5000 militaires, 18 escadrons de forces spéciales, 32 navires et 40 avions de guerre. Y participent non seulement des pays membres de l'OTAN comme l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, le Danemark, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, l'Albanie, les trois républiques baltes, Turquie et Canada. Mais des pays partenaires avant tout, l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, la Suède et Israël. Parmi les autres qui ont envoyé des forces militaires en mer Noire se trouvent l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et le Pakistan des Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal, le Brésil. Le fait qu'en mer Noire s'attroupent des forces militaires provenant d'Australie et du Brésil pour la grande manœuvre sous commandement US dirigée contre la Russie est dans la logique de ce qu'a promis Joe Biden. Donc, en tant que président, je prendrai immédiatement des initiatives pour renouveler les alliances des États-Unis et faire que l'Amérique, une fois de plus, conduise le monde, affirme-t-il. La manœuvre de guerre en mer Noire, la plus grande réalisée jusqu'à présent, démontre que les initiatives du président Biden vont dans la direction d'une escalade croissante contre la Russie et en même temps contre la Chine. La Sea Breeze 2021 a en réalité commencé le 23 juin quand le navire de guerre britannique HMS Defender, naviguant d'Ukraine vers la Géorgie, est entré dans les eaux territoriales de la Russie en Crimée. Acte délibérément provocateur revendiqué par le Premier ministre Boris Johnson, lequel a déclaré que la Grande-Bretagne peut de nouveau envoyer ses navires de guerre dans ces eaux parce qu'elle ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée ukrainienne par la Russie. Cette action hostile, à coup sûr, en accord avec les États-Unis, a été opérée à peine une semaine après le sommet Biden-Poutine, défini par le président états-unien comme « bon, positif », une semaine après que le président russe Poutine a averti dans la conférence de presse à Genève « Nous menons les manœuvres militaires à l'intérieur de notre territoire. Nous n'amenons pas nos équipements et notre personnel aux frontières des États-Unis d'Amérique, comme par contre sont en train de faire maintenant à nos frontières les États-Unis et leurs partenaires », affirme-t-il. Cette action hostile a été opérée par la Grande-Bretagne deux semaines seulement après la signature de la nouvelle charte atlantique avec les États-Unis, dans laquelle on assure les Alliés qu'ils pourront toujours compter sur notre dissuasion nucléaire et que l'OTAN restera une alliance nucléaire selon eux. La violation délibérée des eaux territoriales de la Crimée rend encore plus périlleuse la manœuvre de guerre en mer Noire. Cet acte, s'il se répète, peut avoir comme objectif de provoquer une riposte militaire russe avec quelques morts ou blessés possibles pour accuser Moscou d'agression. Ce n'est pas un hasard si dans l'administration Biden, on trouve à des postes importants certains artisans du putsch de Place Maïdan en 2014, comme Victoria Nuland, actuelle secrétaire d'État adjointe aux affaires politiques. Le putsch a déclenché la séquence d'événements qui, avec la sanglante offensive contre les Russes d'Ukraine, a poussé les habitants de la Crimée, donc territoire russe passé à l'Ukraine pendant la période soviétique en 1954, a décidé avec 97% des voix dans un référendum populaire la sécession de Kiev et la réannexion à la Russie. Celle-ci a été accusée par l'OTAN et par l'Union européenne d'avoir annexé illégalement la Crimée et a été l'objet de sanctions. Maintenant, on veut passer de la confrontation politique à celle militaire. On joue avec le feu, y compris le feu nucléaire.